Bonjour, frères et sœurs. On arrive aujourd'hui au dernier chapitre de l'Évangile de Jean, la conclusion. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on étudie cet Évangile. On a vu il y a deux semaines le chapitre précédent, le chapitre 20, qui est comme une conclusion dans le sens du récit principal, où Jésus annonçait qu'il allait être livré, il allait mourir, mais il allait aussi ressusciter, et il s'est montré à ses disciples. Mais l'Évangile de Jean ne pouvait pas s'arrêter là. C'est-à-dire que Jésus est ressuscité, il se montre à ses disciples. Un auteur faisait souligner que les trois autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, se terminent par une déclaration de Jésus lui-même que la mission qu'il a confiée à ses disciples, il va s'assurer lui-même qu'elle avance à bon train. Il est lui-même le chef de cette mission-là. Et il est avec ses disciples, même s'il s'en va bientôt au ciel, il était sur le point de remonter dans la gloire céleste. Mais il n'allait pas abandonner ses disciples pour autant. Il avait promis d'ailleurs d'envoyer son esprit, mais il est le chef de cette mission qu'il conduit, qu'il confie à l'Église. Et Jean inclut le chapitre 21 qui souligne justement cet aspect-là. Donc, lisons ensemble Jean 21, verset 1. « Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Et Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons nous aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Et ils lui répondirent, « Non. » Mais il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous en trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, car il était nu, et se jeta dans la mer. Et les autres disciples vinrent avec la barque, entraînant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné que de la terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous avez... » que vous venez de prendre. » Et Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osa lui demander, « Qui es-tu? » car ils savaient que c'était le Seigneur. Et Jésus s'approcha, prit le pain et leur donna, ainsi que le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux, ou paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Et il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. » « Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. » Et il dit cela pour indiquer de quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre se retourna Et il vit venir à leur rencontre, à leur suite, le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre? » Et en le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Et là-dessus, le bruit se répandit parmi les frères que le disciple ne mourrait pas. Pourtant, Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? » C'est ce disciple qui rend témoignage des choses, de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Amen. Ici, le chapitre 21 forme une sorte d'épilogue, on peut dire, comme une annexe au récit, mais qui est précieux pour nous. Un épilogue qui ferme la boucle qui a été ouverte par le prologue, où Jean a fait des déclarations avant que le récit commence aussi. Et je crois que le thème principal ici, bien, il y a beaucoup de vérités qu'on peut noter, beaucoup de leçons, mais ce qui ressort, entre autres, c'est le thème de la mission que Jésus a confiée à ses disciples. Lorsqu'il les a vus dans la chambre et qu'il est apparu au milieu d'eux, il leur dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et même, il a, en symbole du Saint-Esprit qu'ils allaient recevoir, il a soufflé. Donc vraiment, il voulait qu'ils aient dans la tête que même si Jésus est prêt de repartir au ciel, il leur confie une mission importante. Et je pense qu'ici, c'est ce qui est souligné comme en arrière-plan de cet événement dans le chapitre 21, mais en deux volets. Et ça correspond aux deux volets de la mission que Jésus nous a confiée, qui est bien résumé dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc l'évangélisation, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, donc l'édification. » On voit ces deux volets ici. L'évangélisation et l'édification qui vont de pair, c'est sûr, qui sont liés dans cette mission, le mandat qu'il a confié à l'Église. D'abord, au verset 1 à 14, l'évangélisation. Bon, on ne voit pas les disciples en train d'évangéliser au début. Ils ont quitté Jérusalem, ils sont retournés sur les bords de la mer de Tibériade, qui est appelée aussi la mer de Galilée. Plusieurs venaient de ce coin-là, justement, dont Nathanaël, même qui... Il est dit qu'il venait de Cana, où il y avait eu les noces, le miracle de l'eau changée en vin. Et ils sont sur le bord de la mer de Galilée et on les voit en train de pêcher le poisson. La question, est-ce qu'ils étaient en train de pêcher, de commettre un péché? Là, les auteurs sont partagés. Je ne sais pas quelle est votre impression là-dessus, votre interprétation. Il y a des commentateurs qui voient ça ici comme vraiment mauvais, que les apôtres soient en train de péché, c'est comme s'ils étaient coupables d'avoir désobéi à Jésus qui leur a confié une mission. Ils sont retournés dans leur patelin, ils sont en train de retourner à leur ancien métier. Mais je pense pas que les détails qui sont fournis dans le texte nous poussent à arriver à cette conclusion-là, qu'ils désobéissent de manière flagrante à Jésus. Ils sont dans une période de transition, hein, où ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Et ce n'est pas clair pour eux quel est le mandat. Encore, il manque de clarté spirituelle, si on peut dire. Et on apprend dans les autres évangiles que Jésus leur avait commandé d'aller en Galilée, qu'il les précéderait là-bas. Donc, ils n'ont pas désobéi, même ils se sont rendus là-bas, très probablement parce que Jésus leur avait commandé. Et pourquoi ils retournent pêcher sur la mer? Parce que ceux qui sont là, c'est ce qu'ils savent faire. C'est ce qu'ils savent faire. C'est leur profession pour se nourrir, tout simplement. Ils n'avaient pas de grandes richesses, et s'ils voulaient manger, il fallait qu'ils se procurent la nourriture. Mais on voit que par l'intervention de Jésus ce jour-là, cette pêche-là va devenir mémorable. Ça va être une illustration très importante, une illustration formidable, entre autres, de l'importance de dépendre de lui. Donc, une leçon que les apôtres ont dû conserver en mémoire pendant leur ministère. On voit d'abord que le travail, ils le font seuls. Ils vont sur l'eau pêcher. Bien sûr, c'est une illustration, là. Mais je pense que ça symbolise bien, ça représente bien le travail qu'on peut faire pour le Seigneur, mais lorsqu'on s'y prend seul. Mais on voit ici d'abord que Pierre, comme à l'habitude, il prend l'initiative, il est déterminé, et les autres disciples, ils l'appuient bien, et même, ils travaillent en équipe. Et ça devait commencer à être stressant pendant la nuit, là, de rien attraper, puis... En tout cas, le texte ne dit pas que la guerre a éclaté, là, ils ont travaillé en équipe, et même ils ont travaillé fort, là, toute la nuit. Donc, ils ont mis du cœur, là, ensemble, dans un effort commun. Pourtant, ils n'ont obtenu aucun résultat. Pourtant, ce sont des professionnels expérimentés. Ils connaissent la pêche, là. Ils savent manier un filet. C'est pas juste des petits pêcheurs à la ligne, là. Ou encore pire que ça, des pêcheurs à la mouche. Non, c'est une blague, parce qu'il y a des amateurs de pêche à la mouche ici. Mais pêcher au filet, ça prend quand même une bonne technique. C'est des professionnels. Et s'ils pêchent de nuit, on sait que sur cette mer, peut-être ailleurs dans le monde aussi, mais c'était une manière de s'assurer d'attraper du poisson. Ils pêchaient avec des torches allumées. Ça attirait les poissons qui venaient. Ils pouvaient les attraper. C'est quand même pas facile de nuit, là, s'il fait noir, mais ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais là, ils n'ont rien attrapé. Mais c'est sûrement Jésus qui a fait en sorte qu'ils n'attrapent rien ce jour-là. Pour leur donner comme une bonne illustration, un peu comme une parabole. Et au lever du soleil, peut-être qu'il faisait encore un peu sombre, Jésus se trouve sur la plage, sur le rivage. Puis il les appelle, il leur adresse la parole. Les disciples ne savent pas que c'est lui encore, peut-être à cause de la distance, même si ce n'était pas très loin. Là, 200 coudées, c'est environ 100 mètres. Mais si c'est encore un peu sombre à l'extérieur, mais peut-être Jésus était vêtu, je ne sais pas, ils ne l'ont pas reconnu. Et il leur dit, enfin, on doit comprendre, c'est un peu comme un terme amical, mes amis, n'avez-vous rien à manger? Ou en d'autres mots, n'avez-vous rien pris? Parce que, d'une manière évidente, ils s'efforçaient pour travailler, pour avoir de quoi à manger, mais ils n'avaient rien, puis ils sont forcés d'avouer non. C'est un dur constat, mais ils n'ont rien pris. Et là, Jésus leur dit, « Jetez votre filet du côté droit de la barque et vous allez en trouver. » Pourquoi est-ce qu'ils ont obéi à cette consigne-là s'ils ne savaient pas que c'était Jésus? Je ne sais pas, mais ils ont peut-être supposé, « Bon, cet homme-là, il doit savoir de quoi il parle. » Mais ils l'écoutent, ils jettent le filet à l'eau et là, ils en attrapent des poissons. Ils en attrapent tellement qu'ils sont incapables de remonter le filet. C'est vraiment un miracle. Le texte dit qu'ils ont attrapé 153 gros poissons. Je ne sais pas c'est quoi des gros poissons. Au moins ça de gros. Mais 153, c'est pesant, là. Ils n'arrivent pas à remonter le filet. Donc, ils sont vraiment impressionnés. Et là, Jean, on dirait que parmi tous les apôtres, c'est celui qui est le plus près du Seigneur, là. Même il se surnomme lui-même le disciple que Jésus aimait. Celui qui a posé sa tête même sur la poitrine de Jésus, alors dans le dernier repas, dans les derniers moments avec Jésus, il le reconnaît. Il dit, c'est le Seigneur. Et là, Pierre dit, hein, c'est le Seigneur. Il remet sa tunique, il saute à l'eau. On reconnaît bien Pierre encore. Et il va rejoindre Jésus. Mais les autres viennent à la barque. Je ne sais pas qui est arrivé en premier. Bien, sûrement Pierre. Et c'est la deuxième fois qu'il y a une pêche miraculeuse qui est rapportée dans les Évangiles. Vous vous souvenez, c'était quand la première fois? C'est le jour où Jésus a recruté ses disciples. On le voit ça dans Luc 5. Et il leur avait justement dit, là, jeter les filets. Puis Pierre, entre autres, avait dit, bien, on a pêché toute la nuit, on n'a rien appris, on n'a rien attrapé, là. Donc Pierre, là, tout à coup, il s'en est souvenu. Mais selon Matthieu et Marc, lors de cette première pêche miraculeuse, lorsque Jésus les a recrutés pour ses disciples, c'est à ce moment-là qu'il leur a dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Puis c'était évident que suivre Jésus pour devenir des pêcheurs d'hommes, c'était une allusion claire au ministère d'évangélisation. Donc Jésus avait établi dès le début de son ministère sur la terre un lien entre l'image de la pêche et l'évangélisation. Pour ça, je pense qu'on est autorisé ici de voir une autre illustration En tout cas, c'est normal pour un chrétien de lire un récit sur une pêche miraculeuse et de faire le lien avec l'évangélisation. D'ailleurs, au moment où Jean a écrit son évangile, c'est le dernier des quatre évangiles qui a été écrit. Ça faisait déjà plusieurs années que les autres évangiles étaient écrits. Donc, c'est la scène où il y a eu la première pêche miraculeuse était bien connue parmi les chrétiens. Donc, même si Jean ne rapporte pas cette première pêche-là, on peut faire le lien. C'est sous-entendu de la connaissance qu'on a des autres récits, des autres évangiles. Donc, je pense qu'on peut voir ici un parallèle avec le mandat d'évangélisation. Donc, on peut en tirer deux leçons qui sont assez évidentes. La première, c'est que sans Jésus, il n'y a pas de résultat positif, il n'y a pas de résultat spirituel. Comme Jésus l'avait dit dans Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Pourtant, on peut faire plein de choses. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? C'est qu'on ne peut pas porter de fruits. C'est justement dans le contexte où il disait que lui, il est comme la tige principale de la vigne. Nous, on est les branches qui sont connectées. Si on n'est pas connecté à lui, on ne peut pas produire de fruits. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Donc, même si des gens se regroupent, même s'ils sont pleins de bonne volonté, ils se regroupent pour faire un nouveau mouvement d'église, une nouvelle secte dite chrétienne, même s'ils font preuve, comme Pierre ici, d'initiative, de détermination, même s'ils mettent leur effort en commun, qu'ils font un bon travail d'équipe, qu'ils sont structurés, même qu'ils travaillent dur, avec vaillance, si c'est sans Jésus, ça ne produit aucun résultat spirituel. Ils vont peut-être réussir à attirer des foules, ils vont peut-être réussir à grandir, mais est-ce qu'ils vont vraiment produire des fruits qui plaisent à Dieu? S'ils ne sont pas du tout avec Jésus, si c'est vraiment leur propre concept, ça va produire des fruits qui ne sont pas spirituels. Donc, ils ne vont pas conduire des gens au salut. Si l'Évangile n'est pas prêché, ils ne sont pas en train de travailler pour Dieu. Beaucoup de gens se disent chrétiens sur la terre, dans la grande famille du christianisme, mais si ce n'est pas l'Évangile de Jésus qui est prêché, ils ne sont pas de vrais chrétiens, de vrais serviteurs de Christ. Qu'est-ce que c'est que l'Évangile? C'est qu'on est sauvé par la foi en Jésus qui est mort pour nous, pour pardonner nos péchés. Si vous croyez à cela, si vous croyez que Jésus, lorsqu'il est mort, il a porté vos péchés sur la croix, qu'il a payé pour vous, et vous l'acceptez comme étant un sacrifice pour vous, vous êtes sauvé. Sinon, si c'est nouveau pour vous, mais croyez en Jésus, croyez en l'Évangile et vous serez sauvés. Et ça, c'est obéir à Jésus que d'annoncer ce message-là. Mais si on est sans Jésus, peu importe nos efforts, on va créer des gens qui sont religieux, mais on ne conduira pas au salut. Mais si on dépend de Jésus dans la prière et qu'on obéit à ses prescriptions, s'il dit « jetez le filet par là », on le jette par là, si on suit ses commandements, on reçoit la grâce, l'immense honneur de conduire des gens au salut. L'évangélisation porte fruit. Nous, on ne sait pas où est-ce qu'il y a du poisson. On jette le filet, mais Jésus le sait. Et il nous conduit. Il va, par son Saint-Esprit, parfois fermer des portes, et il va en ouvrir ailleurs. Et il conduit, il bâtit son Église, qui fait en sorte que depuis 2000 ans que l'Église est née, elle a continué de progresser sous la direction de Jésus. C'est une grande sécurité que nous avons quand on ne travaille pas pour rien. Là. Quand on est avec Jésus, qu'on suit ses commandements, on s'efforce de suivre ses prescriptions. On suit son plan. Et comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, 58, « Votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Il ne l'est jamais. On ne travaille pas pour rien. Si on revient à l'histoire ici, les disciples qui étaient dans l'eau, ils reviennent sur la plage, ils arrivent près de Jésus, et ils s'aperçoivent que Jésus a allumé un feu, comme un brasier, un feu de camp. Il leur a préparé à manger. Alors, peut-être que Jésus a mangé avec eux, mais ils n'avaient pas besoin de manger. On voit qu'il a pensé à eux. Il leur offre du poisson, du pain. Même si le Seigneur Jésus est maintenant le Seigneur glorieux, ressuscité, qui monte bientôt dans sa gloire, il n'a pas changé. Il est encore à leur service. Il est encore l'humble serviteur qui a lavé les pieds de ses disciples. C'est impressionnant de voir ça. Il n'a toujours pas changé. Jésus dit qu'il est parmi nous, là, si on pouvait le voir, là, il serait toujours le même, là, humble, qui est prêt à nous servir, à nous écouter, à répondre à nos besoins. Notre ami, c'est une belle démonstration de son amour, qui ne nous délaisse jamais, qui pourvoit à tous nos besoins, même quand on ne le mérite pas. On ne peut pas dire que ses disciples ici méritaient d'avoir des félicitations. Lorsqu'il a été arrêté, ils ont fui. Et dans un sens, et quand Jésus est apparu dans la pièce avec eux, c'était déjà un signe qu'il leur pardonnait, mais ce jour-là, c'est comme une réconciliation. Venez là, près de moi. Et il les appelle à lui. Et Jésus leur dit aussi, apportez des poissons que vous venez d'attraper là. Venez en manger. Donc même si Jésus pouvait tout faire d'un claquement de doigts, il aurait pu faire apparaître 50 poissons pour les faire manger. Mais il leur dit, non, apportez les poissons que vous venez de pêcher. C'est souvent le cas, vous l'avez peut-être noté, lorsque Jésus a fait des miracles, il y avait, une implication d'une action humaine, une participation quelconque. Jésus donnait un ordre, fais ceci, fais cela. Il y a une participation humaine dans le miracle que Jésus produit lorsqu'il fait du bien. Et ici, il les fait participer, apporter le poisson. C'est une chose étonnante et même touchante, on peut voir que Jésus, même s'il pouvait, il pourrait accomplir la mission d'évangéliser le monde et de sauver les âmes sur la terre, lui-même, de claquement de doigts. Il pourrait continuer de le faire seul, mais il nous fait participer. Il ne le fait pas sans nous. Il fait de nous ses co-ouvriers. On travaille avec lui, on travaille avec Dieu. Et là, Jean rapporte le nombre exact de poissons qu'ils ont attrapés, 153. Il y a beaucoup de théologiens qui se sont posé la question, qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre-là? Est-ce que ça a une signification symbolique? Je ne sais pas si vous en connaissez une signification. Augustin lui avait noté que 153, c'est le nombre triangulaire de 17. Bon. Si vous êtes bon en mathématiques, là. Un nombre triangulaire, c'est quand on fait 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Quand on arrive à plus 17, ça donne 153. Et tout le monde sait que 17, c'est 10 plus 7. Puis 10, mais ça rappelle les 10 commandements. Puis 7, ça rappelle le chiffre parfait de Dieu. Bon, c'est poussé loin pas mal, hein? Mais je pense que ce nombre-là sert à montrer, premièrement, qu'il y avait beaucoup de poissons. Ils ont pris la peine de les compter. Et ils ont tous été témoins de ça, là. Puis je pense que, en tout cas, si vous avez été à la pêche, là, c'est très rare qu'on va pêcher et qu'on ne compte pas les poissons qu'on a attrapés, là. Surtout quand c'est exceptionnel, on les compte. On les prend même en photo. Mais donc, ça indique qu'il y en avait beaucoup. Mais ça indique aussi un nombre précis. Jean ne fait pas juste dire qu'il y en avait plus de 100. Il y en a 153. Puis dans le symbolisme de cette action-là, qui est comparé à l'évangélisation, je trouve qu'il y a une belle signification ici, qu'il y en a beaucoup. Jésus, par la mission qu'il confie à l'Église, sauve beaucoup d'hommes et de femmes sur la terre. Mais même s'il y en a beaucoup, il connaît le nombre exact, à la personne près. Chacun est important. Et en plus, on apprend ici que même s'il y en avait beaucoup, le filet ne s'est pas déchiré. C'est même un contraste avec la première pêche miraculeuse où les filets déchiraient. Il y avait trop de poissons. Ici, Jean prend la peine de dire que le filet ne déchirait pas. Aucun des poissons qui a été attrapé n'a été perdu. Les 153 qui ont été attrapés ont été ramenés sur le rivage. Et dans la mission d'évangélisation, aucun des hommes et des femmes sauvés ne seront perdus. Jésus s'en assure lui-même. Donc, une belle illustration du premier volet du mandat confié à l'Église d'évangéliser. Le deuxième volet, qui est l'édification, est déclaré même directement à Pierre, entre autres. Donc, après le repas, je m'imagine la scène, là, qu'ils ont fini de manger, puis Jésus se lève, puis il marche sur la plage avec Pierre. Peut-être les autres suivent. Puis là, il s'entretient avec lui. Et c'est un processus qui servait à montrer à Pierre aussi qu'il avait pardonné, comme une réconciliation. Et il lui demande à Pierre, « M'aimes-tu? » Et même, la question est plus précise que ça, « M'aimes-tu plus que ceux-ci de même? » Et là, Pierre répond, « Ben oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et je ne sais pas si Pierre, à ce moment-là, avait fait le lien, mais juste avant l'arrestation de Jésus, Pierre avait prétendu qu'il aimait vraiment Jésus et que même si tous les autres l'abandonneraient, et les autres qui étaient présents, c'était ses collègues, ses disciples, même si tous l'abandonnaient, lui, il n'abandonnerait jamais. Il avait même dit, on lit ça dans Jean 13, « Je donnerai ma vie pour toi. » Il n'a pas dit « Nous donnerons nos vies, je donnerai ma vie pour toi. » C'était des prétentions assez fortes, là, mais il n'a pas été à la hauteur. Ce qu'il prétendait, en fait, c'est qu'il aimait même peut-être plus que les autres qui étaient là, Jésus, et que jamais qu'il ne trahirait son maître. Pourtant, c'est lui qui a renié Jésus, ce n'est pas les autres. Tous ont fui, mais c'est Pierre qui a renié Jésus, qui a même dit « Je ne le connais pas, je ne connais pas cet homme-là ». Ici, c'est intéressant que trois fois Jésus lui demande « M'aimes-tu ?» Les trois fois, Pierre répond « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Mais la troisième fois, là, il est triste. Là. Et peut-être qu'il a fait le lien qu'il a renié justement Jésus trois fois. Et là, il est rempli de tristesse. Puis il dit « Seigneur, tu sais tout. Là. Malgré mes fautes, malgré mon incompétence, ma peur, malgré le fait que je t'ai renié, tu vois mon cœur, tu sais que je t'aime. » Même si l'esprit est bien intentionné, la chair est faible. Mais Jésus lui a pardonné. Et il ne lui demande pas trois fois pour lui taper sur la tête et pour l'écraser. C'est pour lui faire comprendre à quel point il est indigne, mais que Jésus lui a pardonné sa faute. Il lui confie une grande responsabilité. Et après chacune de ses réponses de Pierre, il lui dit de prendre soin de son troupeau, de le faire paître, en être le berger. D'où le titre « pasteur ». Pasteur, c'est ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui fait paître les brebis. C'est un synonyme de berger. C'est un beau terme. Le mot « pasteur » est resté collé au rôle d'ancien dans l'Église, parfois appelé « évêque » aussi. Mais « pasteur » souligne vraiment le rôle de garder, de prendre soin du troupeau de Jésus. Et le troupeau, c'est quoi? Mais c'est pas littéralement des brebis, c'est l'Église, c'est les croyants. L'Église qui était sur le point de voir sa naissance le jour de la Pentecôte, donc quelques jours plus tard. Mais notons une chose importante, c'est le troupeau de Jésus. Il ne dit pas à Pierre, « Paie tes brebis, prends-en soin. Paie mes brebis. » C'est le troupeau de Christ, là. Ou même si on veut être plus précis, c'est le troupeau qui est la propriété de Dieu. Dieu est le propriétaire et Jésus est le berger en chef. On peut dire que c'est son troupeau. Il est le berger, le bon berger. Et c'est une façon pour Pierre qui lui est offerte de prouver son amour pour Jésus. Si tu m'aimes, tu vas paître les brebis. Si tu m'aimes, tu vas être un bon pasteur. Donc par son travail pastoral, il va démontrer à quel point il aime Jésus. Comment? Bien, en aimant ses frères et sœurs. C'est les frères et sœurs de Christ. C'est normal. C'est impossible d'aimer vraiment Jésus sincèrement et de ne pas aimer sa famille, de ne pas aimer ses frères et sœurs. C'est impossible de servir Jésus de tout cœur sans servir l'Église. Et pour ça, il va devoir aimer les frères et sœurs en veillant sur, on peut voir, sur leur édification. Donc, comme on a vu tantôt, l'importance de l'évangélisation, attraper les poissons, mais il faut en prendre soin. Les brebis qui sont entrées dans le troupeau de Jésus, il faut les contribuer à leur édification, leur croissance, les nourrir, les conduire, les avertir, les protéger. Mais ce n'est pas seulement Pierre, c'est lui et tous ceux qui seront par la suite appelés à être des pasteurs. Et tous les chrétiens aussi qui contribuent aux soins pastoraux de leurs frères et sœurs. Paul l'a rappelé aux anciens de l'Église d'Éphèse. Dans Actes 28, Paul leur dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc, l'Église, c'est vraiment l'Église de Dieu. Ce n'est pas l'Église d'un pasteur ou l'Église d'un autre, d'un tel. C'est l'Église de Christ. Là. Et ça, les pasteurs font bien de se le rappeler. La responsabilité, la grande responsabilité de prendre soin d'un troupeau qui n'est pas le leur, là. C'est le troupeau de Christ. Là. Mais ici, Pierre, c'est le premier qui a reçu ce mandat-là, clairement, cette responsabilité. Mais on peut conclure qu'il s'en est bien chargé, d'après son propre témoignage dans sa lettre. Et tous ceux qui ont lu sa lettre et qui le connaissaient pouvaient dire, bien, c'est vrai, il a été un bon pasteur. Il dit dans 1 Pierre 5, « J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ, et participant à la gloire qui doit être révélée, faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, ni pour un gain sordide, pas pour vous enrichir, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, le grand berger, c'est Jésus. Lorsqu'il paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Une chose qu'on peut noter ici, notre frère Ronald nous l'a souvent souligné dans nos études bibliques, c'est que ici Pierre donne trois paires de recommandations. C'est intéressant le chiffre 3 qui revient encore ici. Donc il dit... Donc, la manière dont les pasteurs doivent servir, donc d'abord, pas par contrainte, mais volontairement, pas pour un gain sordide, mais de bon cœur, pas en tyrannisant, mais en devenant des modèles. Trois consignes. Je pense que le chiffre 3, je ne pense pas que c'est un hasard, là. Rappelle les trois fois que Jésus lui a dit, « Prends soin de mes brebis. » Et notons aussi encore ici que le troupeau appartient à Dieu et que le berger souverain, c'est Jésus. Donc, les pasteurs n'ont qu'un rôle de pasteur délégué, qui leur est délégué. Et pour tous les chrétiens, la façon de démontrer notre amour pour Jésus, c'est en aimant nos frères et sœurs, en prenant part à l'édification de l'Église. Comme si Jésus vous disait, « M'aimes-tu? » Oui. Mais prends part à l'édification de l'Église. Fais tout pour édifier l'Église, pour la gloire de Dieu. Mais nous sommes appelés à différentes formes de service. On n'est pas tous appelés à être pasteur ou à être évangéliste. Il y a différentes formes de service auxquelles nous sommes appelés par les dons différents que le Saint-Esprit nous donne. Ça montre que Jésus a un plan différent pour chacun de nous. Et on peut se poser la question, mais pourquoi ça arrive à telle ou telle personne et pas à moi? Ou qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour que de la souffrance m'arrive dessus, et pas à un autre, par exemple. Mais Jésus, ici, donne un exemple. Il révèle à Pierre une partie du plan qui a été établi pour sa vie. Pierre va le servir maintenant, mais jusqu'à mourir pour lui. Quand Pierre avait dit, « Je donnerai ma vie pour toi », il ne savait pas, mais c'est littéralement ce qui allait arriver. Mais il fallait pour ça d'abord qu'il soit transformé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a fait de lui un homme courageux. Mais Pierre a servi Jésus pendant de longues années. D'après les textes qu'on a trouvés, là, des textes hors de la Bible aussi, des témoignages, il a servi au moins 30 ans, le Seigneur Jésus. Mais il est terminé martyr. Il est mort martyr, mais pour la gloire de Dieu, sans renier Jésus. Il n'a pas recommencé à renier Jésus comme il l'avait fait avant, là. Il est mort en glorifiant Dieu. Et au moment où l'Évangile de Jean a été écrit, on comprend que Pierre était déjà mort. C'était déjà su des chrétiens, la manière dont Pierre avait terminé sa vie. Il a servi le Seigneur, puis il a été arrêté par les Romains sous l'empereur Néron. Et si on se fie au rapport qui nous est fait, il est mort crucifié comme son maître Jésus. Ici, Jésus lui avait prophétisé, et c'est un peu énigmatique la manière dont Jésus lui révèle comment sa vie va se terminer, mais il dit, « Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, un autre t'attachera, si on se fie à la première phrase, t'attachera la tunique, Mais ce n'est pas dit la tunique. Non. T'attachera et te mènera là où tu ne voudras pas. Et Jean confirme que c'est cette description-là décrit comment Pierre allait mourir. Mais je ne sais pas si ils ont eu la révélation ce jour-là ou par la suite, qu'est-ce que ça voulait dire exactement, mais ils l'ont compris plus tard quand c'est arrivé. Et Pierre a étendu les bras pour être attaché à la poutre de la croix qu'il devait porter jusqu'au lieu de sa mort crucifiée. D'ailleurs, étendre les mains, c'était un terme technique c'est prouvé que c'est un terme technique utilisé dans le cadre de la crucifixion. Pas seulement la crucifixion, mais il y avait une étape dans la crucifixion où le condamné étendait les mains. Ça voulait dire qu'il était attaché à la poutre et il devait porter sa croix jusqu'au lieu où il allait être mis à mort. Bon, il y a un autre, je pense, c'est Tertullien qui dit qu'il a été crucifié la tête en bas, mais ça, on n'a pas de preuve de ça. Et donc, il vient de s'être révélé ce qui va lui arriver, mais je pense qu'il a bien compris que ça voulait dire comment sa vie allait se terminer, parce qu'il se retourne, puis là, il voit Jean qui s'en vient, le disciple que Jésus aimait, comme Jean se surnomme. Il demande à Jésus, puis à lui, qu'est-ce qui va y arriver? Lui aussi était prêt, là. C'était un des trois plus près de Jésus. Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » En d'autres mots, si je veux qu'il reste vivant jusqu'à mon retour, qu'il n'ait pas à passer par la mort et la résurrection, mais que son corps soit simplement transformé, comme si Jésus revient demain, c'est ce qui va nous arriver. Mais si je veux qu'il reste vivant jusqu'à mon retour, ça ne te regarde pas. C'est pas de tes affaires. Puis Jean nous dit que, parce que Jésus a dit ça, il y a une croyance qui a circulé parmi les chrétiens que, justement, Jésus allait revenir avant que Jean meure. Jean ne pouvait pas mourir. Jésus allait revenir. Donc, ils attendaient. Là, les années avançaient, mais ils étaient sûrs, Jésus va revenir. Mais Jean s'en venait de plus en plus vieux. Puis là, au moment où Jean a écrit cet évangile-là, il était rendu assez âgé, là, peut-être plus de 90 ans. Donc, il prend la peine de dire, je vais peut-être mourir bientôt, là, mais Jésus n'a pas dit que je n'allais pas mourir. Il a dit, si je veux qu'il ne meure pas, en quoi ça te regarde? Mais il n'avait pas fait cette promesse-là, Jésus. Et on sait que Jean est finalement décédé. On se trouve près de 2000 ans plus tard, puis Jésus n'est pas encore revenu. Mais on constate que Jean a eu un rôle différent de Pierre. Et pourtant, les deux, c'était des disciples bien-aimés. Ce n'est pas seulement Jean qui était bien-aimé. Pierre, tous les disciples. Et Jean a eu un rôle différent de celui de Pierre, celui d'écrire justement ce témoignage qu'on vient d'étudier, l'Évangile de Jean. Et Dieu lui a permis aussi d'écrire trois lettres, trois épîtres, et en plus, l'Apocalypse. Wow! Qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas l'Apocalypse entre les mains? Qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas l'Évangile de Jean en plus? C'est vraiment des textes très importants. Bien, ils sont tous importants, mais c'est le rôle que Jésus lui avait préparé, le plan que Dieu avait pour lui. Mais ni Pierre ni Jean n'est rabaissé par Jésus. Jésus n'entre pas dans la compétition, dans la comparaison. Même, il met un frein tout de suite. Quand Pierre demande qu'est-ce qui va lui arriver à lui, il dit, arrête, ça ne te regarde pas. Ce qui te regarde, c'est toi devant Dieu. Et on se rappelle que pendant le ministère de Jésus, les apôtres ont souvent été en compétition. Même Jean, je ne sais pas c'est quoi son intention, il nous rapporte qu'il a couru plus vite que Pierre à la tombe. Mais en tout cas, ils ont souvent été comparés. Mais dans le ministère, dans le mandat qu'ils confient à l'Église, il n'y a plus cette notion-là de comparaison. Chacun aura un rôle différent qui est important et précieux, qui se complète. Et Jésus fournit à l'Église les hommes et les femmes qui répondent à tous les besoins que l'Église a pour l'évangélisation et pour l'édification. Chacun selon un rôle qu'on a. Le rôle de Pierre, lui, ça a été de servir fidèlement, d'ouvrir les portes à l'Évangile, mais de finir dans la souffrance, martyr. Bon, Jean aussi a fini par mourir, mais je ne sais pas si c'est martyr. En tout cas, ça n'a pas été annoncé. Mais Dieu a un plan pour chacun de nous. Dans Éphésiens 2:10, il a dit, « Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Certains servent à l'édification de l'Église en passant par la persécution. Ça arrive. On peut se demander pourquoi, dans certains coins du monde, les chrétiens ont la vie très dure. Là. Ils sont persécutés. Mais c'est un rôle particulier qu'ils ont. Mais chaque chemin de souffrance glorifie Dieu. Parce que ça montre qu'ils ont vraiment le Saint-Esprit, qu'ils sont vraiment sincères, que Dieu les garde fidèles jusqu'à leur mort et ils meurent en glorifiant Dieu. D'autres servent de témoignage vivant avec une longue vie de persévérance jusqu'à la fin. Donc, même si nous avons des rôles différents dans l'Église, tous sont importants, à condition de suivre Jésus. Par amour pour lui, par amour pour ses frères. Et Jean conclut son livre en dévoilant finalement ce qu'on avait pas mal deviné, que le disciple que Jésus aimait, c'est lui. C'est lui qui a écrit ce texte-là. Donc, l'auteur, c'est le disciple que Jésus aimait. Et on comprend que c'est Jean. Il est un témoin oculaire de ces choses-là. Il l'a vu. Il rend témoignage. Son témoignage est vrai. Et il dit, nous savons que son témoignage est vrai. Qui ça, nous? Je pense que c'est nous, les témoins oculaires. Tous ceux qui l'avons vu, qui l'avons touché, qui l'avons entendu, qui avons mangé avec lui, là, qui avons vu ses miracles, nous pouvons tous témoigner que ce que j'ai écrit là, c'est vrai. Et ce « nous-là », ça rappelle bien l'introduction de l'Évangile de Jean dans le prologue. Dans verset 14, chapitre 1, verset 14, il dit « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. » Qui ça, nous, mais ceux qui l'ont vu, ceux qui ont été témoins là, de la gloire de Dieu cette chair, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et tous ces témoins peuvent attester que ce qui est écrit ici est vrai. Donc nous, on ne devrait pas chercher des preuves supplémentaires. Là. C'est un témoignage véridique auquel nous devons y accorder foi. Mais Jean ne veut pas terminer son écrit en laissant l'attention sur lui-même. C'est moi qui ai écrit cela. Il veut retourner l'attention sur Jésus. La gloire de Jésus. Et il termine en disant, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. À première vue, ça peut sembler un peu exagéré, là, ce qu'il dit. Ça peut être une hyperbole. Là. Mais si on comprend qui est Jésus, et il l'a dit au chapitre précédent, qu'il a écrit ça pour qu'on croie que Jésus est le Fils de Dieu, là. Et dès l'introduction de son évangile, il a révélé que Jésus est la parole qui, même avant que le monde soit créé, la parole qui était avec Dieu, et la parole qui est Dieu. C'est Dieu lui-même, là, le créateur de toutes choses. Tout ce qui a été créé par la parole, par Jésus. Le monde, l'univers entier est sa création et son œuvre. Donc, si on se mettait à écrire des livres de tout ce que Jésus a fait, il n'y aurait pas assez de place dans l'univers pour contenir tous les livres. Il est le Créateur Tout-Puissant. Donc, dans ce rappel de la mission qui est confiée à l'Église, où on se rappelle que Jésus est le chef de cette mission-là, il est le chef de l'Église, bien, c'est un grand réconfort, une grande sécurité de savoir que ce chef-là, c'est pas n'importe qui, là, c'est le Créateur, c'est le Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'on a à craindre? Même quand la souffrance arrive, pourquoi est-ce qu'on craindrait la souffrance? Pourquoi est-ce qu'on voudrait fuir? On continue de se confier en Jésus en étant assuré qu'il va nous ressusciter. Il ne va pas nous laisser dans le séjour des morts. On l'a vu, cette mission comporte deux volets, l'évangélisation et l'édification. Mais rappelons-nous d'abord que sans lui, on ne peut pas accomplir quoi que ce soit qui va plaire à Dieu. Des fruits spirituels pour Dieu qui ont une portée éternelle si ce n'est pas avec Jésus, ça ne sert à rien. Mais si on dépend de lui dans la prière, en lui obéissant, on peut être sûr qu'on va être conduit à servir l'Église et même à conduire d'autres âmes à être sauvées, à devenir à leur tour des évangélistes et des gens qui vont contribuer à bâtir l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire d'obéir à Jésus? C'est de l'aimer et d'aimer son corps qui est l'Église. Jésus résume toute sa volonté à « aimez-vous les uns les autres ». C'est D'ailleurs, l'amour pour Jésus, c'est la seule bonne motivation. Si on a d'autres motivations pour servir, même si on consacre notre vie au service, si ce n'est pas par amour pour Jésus, par amour pour ses frères et sœurs, ça ne vaut rien. 1 Corinthiens 13 dit, « Quand j'aurai même le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. » Donc, une question pour chacun de nous. Est-ce que nous aimons Jésus? Est-ce que vous aimez Jésus? Vous prenez le temps de vous arrêter, là. Est-ce que vous aimez Jésus? Aimez-vous ses frères et ses sœurs? Lui, en tout cas, il nous aime. Et même lorsque nous faillons, et nous défaillons, lui ne faille jamais. Dans Romains 8, Paul dit, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, la persécution, l'angoisse, la faim, le dénuement ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.